Vivre FM Podcast.
Recherche et partage, jusqu'à midi sur Vivre FM, Blandine Lacour.
Bonjour, bienvenue dans Recherche et partage, une émission proposée en partenariat avec la FIRA, Fondation Internationale de Recherche Appliquée sur le Handicap. Si vous êtes connecté, vous pouvez jeter un œil sur www.fira.org en même temps que vous écoutez l'émission. Mais restez concentrés tout de même, car aujourd'hui vous allez découvrir ce que est un pair émulateur, ce qu'est la pair émulation. On ne rigole pas avec les mots, c'est même une marque déposée et c'est l'objet d'un projet de recherche financé par la FIRA. Pair émulateur, une fonction sociale émergente vers un référentiel de qualification et de certification. Alors pour l'instant, ce titre ne vous dit rien, ne paniquez pas, nos invités sont là pour tout vous expliquer sur le pourquoi du comment de la pair émulation et les avantages que l'on va trouver à la qualifier. Je peux déjà vous dire que la pair émulation, c'est l'émulation par les pairs. Je ne m'avance pas trop, mais pour en savoir plus, vous restez branchés sur Vivre FM. En dernière partie d'émission, et comme il est presque de coutume, nous aborderons un tout autre sujet, puisque c'est de robotique que nous parlerons, et notamment de la robotique au service des personnes avec une déficience motrice. Et nous aborderons les questions éthiques et sociales face à la robotique. Un programme alléchant ce matin, donc, sur Vivre FM. Restez à l'écoute de Recherche et Partage, c'est tout de suite. La Fondation internationale de recherche appliquée sur le handicap, qui finance des projets de recherche et partage le résultat de ses recherches, notamment sur Vivre FM. Et pour nous parler aujourd'hui d'un projet, justement, financé par la FIRA, un projet sur les pairs émulateurs, nous recevons Jean-Luc Simon, qui est formateur en sciences sociales et président du GFPH, le Groupement français des personnes handicapées. Nous avons aussi en plateau Pierre Dufour, qui est sociologue. Et puis à nos côtés aussi, Christophe Leroux, spécialiste de la robotique au CEA de Saclay. Nous l'entendrons peut-être un peu plus tard, mais enfin, sentez-vous libre d'intervenir dans l'émission aussi. Bonjour à tous, bonjour messieurs.
Bonjour.
Merci donc d'être là. Pair émulateur, une fonction sociale émergente vers un référentiel de qualification et de certification, c'est le projet dont nous allons parler aujourd'hui. Alors bien sûr, on va commencer très certainement avec vous, Jean-Luc, par expliquer ce qu'est la pair émulation, ce qu'est un pair émulateur. Alors d'où vient ce terme, c'est quoi au juste ?
La pair émulation, c'est une relation, un peu comme la formation, une dynamique, un processus. C'est une rencontre entre deux personnes, l'une qui a l'expérience et l'une qui doit accumuler de l'expérience, et en tout cas qui découvre une situation. Et en fait, la situation de handicap. Comment je fais dans une situation de handicap pour rester le plus autonome possible et continuer à vivre ma vie selon mes choix ? C'est exactement l'objectif de la pair émulation, soutenir les personnes qui, quelles que soient leurs restrictions, puissent continuer à vivre selon leur choix et ne pas être obligés de rester dans un lieu de vie qu'ils n'ont pas choisi, selon des modes de vie qu'ils n'auraient pas choisi, selon des directives qu'ils subissent et qu'ils voudraient un petit peu dont ils voudraient se dégager. Comment c'est être pair émulé, c'est apprendre à résister, apprendre à être libre finalement au milieu de ces contraintes.
Donc un pair émulateur, si je vous suis bien, c'est donc quelqu'un qui a vécu ce que vit la personne handicapée, puisqu'ici on va parler de handicap, et qui va pouvoir partager son expérience pour apporter plus d'autonomie à la personne handicapée. Est-ce que d'ailleurs, pair émulation, vous l'utilisez uniquement dans le terme du handicap ou on peut l'utiliser plus largement ?
Ça a été créé uniquement pour le handicap finalement. Ça a été créé pour traduire un terme anglophone dont nous n'avions pas l'équivalence, le peer counseling. Conseil par les pairs, par les semblables, le peer support, qui est une pratique qui est développée au Canada, aux États-Unis, en Europe du Nord, et que nous avons rencontré à différentes reprises dans nos réseaux internationaux, puisque le GFPH est le membre français de l'Organisation mondiale des personnes handicapées. Et donc, dans le cadre de nos activités, nous avons rencontré dans les années 90 ce type de pratique à l'extérieur. Et comme nous les avions ressentis, nous, dans notre vécu, à différents niveaux sur le terrain, eh bien, nous avons fait la relation entre ce qui se passait à l'extérieur, ce que nous vivions. Et c'est comme ça que la pair émulation est née, pour traduire un terme qui n'existait pas en France.
Christophe voulait rebondir,
oui,
je crois, là-dessus.
Je voulais juste vous demander, les personnes avec lesquelles vous travaillez sont des personnes qui souffrent de déficience motrice ou sensorielle ? Parce que pour les déficiences cognitives, comment est-ce que vous procédez ?
C'est parti de personnes handicapées en restriction motrice.
D'accord.
C'est autour de cette dynamique-là. Ce sont les plus volontaires, ce sont les plus engagés, et c'est les premiers qui se sont engagés. Mais en ce moment, nous avons eu cette discussion-là cet après-midi parce que des parents voudraient rejoindre le mouvement, parce que des personnes aveugles souhaitent rejoindre le mouvement, même si elles sont associées depuis longtemps, mais il y a des volontés. C'est en train de transcender le simple public des personnes en situation de restriction motrice.
Et pourquoi ne pas alors avoir gardé le terme père uniquement ? Est-ce que le côté émulation du terme, c'était important pour vous ? Je sais que pour le GFPH, on a cette notion effectivement d'accompagnement d'autonomie, mais pas seulement. C'est toute une philosophie, hein, à vous entendre parler, d'ailleurs on le comprend, c'est derrière le terme, il y a vraiment une approche qui a été pensée, réfléchie, et qui va au-delà justement alors, du simple accompagnement.
Le mouvement auquel nous appartenons et dans lequel nous nous reconnaissons est vraiment un mouvement de libération, c'est-à-dire qu'il y a, il y a cette notion d'émulation, de libération, c'est-à-dire donner les éléments qui permettent de sortir du joug des volontés de personnes extérieures, des contraintes amenées par des restrictions, quelles qu'elles soient. Comment puis-je continuer à être libre malgré toutes les contraintes qui m'entourent et qui m'obligeraient et dont je n'ai pas forcément identifié les moyens de me libérer, mais qui, des personnes qui en ont l'expérience, qui ont appris à se libérer de ces situations-là, eh ben vont me dire d'abord que c'est possible, et ça c'est fondamental. Quand je comprends que quelque chose est possible, eh ben tout d'un coup mon avenir prend une autre dimension, il y a des pistes que j'avais pas envisagées. C'est d'abord ça la pérémulation, c'est donner envie de moi dans les expériences, dans les souvenirs que j'ai, ça s'est passé dans une rencontre. Dans une rencontre, j'ai peut-être au bout de 20 ans de fauteuil roulant.
Alors, j'allais le dire, on n'a pas précisé aux auditeurs que deux de nos invités, Jean-Luc qui parlait à l'instant et Pierre qu'on va entendre dans un moment, vous êtes tous les deux en fauteuil. Donc voilà, c'est un sujet qui vous touche d'encore plus près, on va dire.
Concerné, le mouvement auquel j'appartiens, l'OMPH, DPI, l'Organisation Mondiale des Personnes Handicapées, DPI c'est le sigle anglais sur lequel il est plus connu, est vraiment un mouvement animé par des personnes elles-mêmes en situation de handicap. C'est-à-dire, rien sur nous sans nous. C'est vraiment le slogan apporté par notre organisation. Rien de ce qui nous concerne ne doit pouvoir être réalisé sans que nous y soyons particulièrement impliqués et partenarisés. Sinon, ça court à l'échec, tout simplement.
Christophe.
Oui. Est-ce que vous capitalisez aussi une expérience sur les aides techniques avec les aspects, enfin, je parlais mauvaises ou bonnes expériences
Ça fait partie de la pérémulation, c'est-à-dire que on est amené à conseiller ou en tout cas à orienter la personne vers un choix de fauteuil roulant, vers un choix d'aide technique en général, et peut-être à l'encourager à en utiliser parfois et à le décourager pour d'autres qui sont pas forcément des bons choix. C'est-à-dire que nous avons une expérience, donc une espèce d'avance par rapport à lui. Et on essaye simplement de lui donner des conseils, mais comme n'importe qui le ferait, comme plein de gens le font à travers des forums d'utilisateurs, à travers Internet, que ce soit des sportifs, des coureurs, un tas d'utilisateurs de produits font des échanges d'expériences. Nous ne faisons que ça.
Alors comment est né justement ce projet de recherche ? Comment vous êtes passé à la phase je le fais avec mes proches, avec l'association et autres, à se dire on va aller un peu plus loin peut-être et essayer de qualifier, de quantifier, d'organiser un peu cette pérémulation ?
C'est une logique de développement. Tout simplement, parce que notre action elle est pour l'instant que bénévole et que tant que le pérémulateur il sera pas reconnu, il va avoir des difficultés, comme c'est le cas toujours en ce moment, à pouvoir intervenir au sein des hôpitaux, des institutions, parce qu'il n'a pas de statut, on sait pas, il n'y a pas de garantie à avancer. Donc nous on veut pouvoir proposer une formation, un statut qui permette à chacun d'identifier le pérémulateur et de savoir qui il est et qu'est-ce qu'il a comme bagage derrière lui, quoi. C'est simplement une espèce de garantie de validité. Nous proposons de construire un cadre d'action. Pour l'instant, nous sommes un peu hors cadre, sinon associatif. On veut simplement institutionnaliser un petit peu plus la pratique avec cette question derrière. Mais est-ce que l'institutionnalisation de cette pratique-là ne va pas être à son détriment ? Ça, c'est une question que nous aurons à la fin.
Une peur qu'on peut avoir. Pierre, un mot, parce que si je ne vous lance pas, Jean-Luc va monopoliser votre temps de parole. Comment ça vous est venu à vous aussi, en tant que sociologue, en tant que personne en fauteuil ? J'imagine que peut-être vous faisiez partie du GFPH. Non, même pas. Alors comment vous est venu ? Comment s'est fait la rencontre ? Et puis comment vous avez élaboré justement ce projet de recherche ?
En fait, je suis chercheur, mais je ne suis pas militant, en fait. Du tout. Je suis avant tout chercheur, mais chercheur en fauteuil, quoi. Ce qui induit deux trucs. Le premier, c'est que, ok, j'observe en tant que personne qui ne marche pas, et ça induit des choses. Mais il se trouve que je n'ai pas de maladie évolutive. Il se trouve que je bouge les bras. Du coup, ben, quelque part, j'observe aussi un peu comme une personne valide. Et c'est ça qui m'intéresse dans la recherche sur l'hyperémulation. C'est d'essayer de trouver une posture où chacun, finalement, aurait un élément à apporter, et qui soit transmissible, quoi. Alors, la recherche en elle-même, moi, j'ai pris un peu le train en marche, parce que c'est pas moi qui conçois le projet de recherche, en fait. C'était une chercheure initiale qui a arrêté. Et donc, voilà, moi, j'ai repris la recherche parce que je suis pas militant, mais bon, les idées portées par le GFPH me plaisent assez. Et alors, le lien entre recherche et militantisme, il est parfois assez friable. C'est-à-dire que, alors là, je vais pas me faire des copains, mais bon, sans pire. La plupart du temps, les chercheurs valides qui écrivent sur le handicap, eh ben, ils considèrent que ce qui est normal pour eux, bah c'est normal, quoi, c'est la norme. C'est-à-dire qu'ils vont décrire des personnes qui agissent avec leur propre manière, qui n'est pas la manière valide, mais ils vont les décrire en fonction des critères de santé, des normes de santé. Et ça, c'est pas politiquement neutre. Pourtant, ça passe comme quelque chose de politiquement neutre dans la recherche. C'est-à-dire que les manières d'être valides, bah, sont les manières d'être neutres, ou seraient. Donc, moi, ce qui m'intéresse dans la recherche à la périmulation, c'est d'introduire un petit peu un grain dans le sable de la recherche, quoi. Et puis, de creuser, voilà, ces manières d'être normales qui sont plurielles, finalement. Alors, j'avais bossé sur le handicap. Ça fait 10 ans, en fait, que je travaille sur le handicap. J'ai fait une thèse sur le handicap et masculinité. Et donc voilà, c'est à partir de là que j'ai commencé à creuser ces questions.
Et alors en deux mots, comment s'organise cette recherche, ce projet de recherche de la FIRA ? C'est-à-dire concrètement, il se passe quoi ? Vous êtes en fauteuil tous les deux, vous savez de quoi vous parlez, mais il y a une ouverture aux autres, on fait comment pour, vous le disiez Jean-Luc, qualifier cette pérémulation et puis essayer de faire avancer les choses ?
Concrètement, on écoute ce que disent et ce que font les gens. C'est-à-dire, moi, je postule pas que la pérémulation est figée et qu'elle existe. J'écoute ce que des gens qui disent qu'ils font de la pérémulation ont à dire. J'écoute ce qu'ils racontent, j'écoute leurs pratiques, et j'essaie d'en tirer, voilà, d'en tirer une espèce de fond commun, quoi. D'en tirer une espèce de discours sur le corps qui serait intéressante à transmettre. Alors, je constate aussi que les pérémulations parfois ont des difficultés parce qu'ils se retrouvent face à des gens où c'est pas le moment, quoi, c'est trop tôt, c'est pas le moment, les gens n'ont pas envie de voir en face d'eux une personne en fauteuil, tout simplement. Ou alors l'inverse, les pérémulateurs parfois se trouvent face à des personnes où le repli sur soi, finalement, c'est tellement installé que c'est encore plus dur de casser une espèce d'ordre du monde comme ça, très très figé. Et l'intuition que j'ai là, pour l'instant, c'est à soumettre, hein, c'est à discuter avec les pérémulateurs. On a une discussion cet après-midi un peu animée. L'intuition que j'ai, c'est que la pérémulation, c'est d'abord transmettre un sentiment de légitimité à être tel qu'on est, quel qu'on soit.
C'est beau. On va faire une petite pause sur ces bonnes paroles et revenir dans un instant avec vous sur ce thème de la pérémulation dont on parle aujourd'hui.
Jusqu'à midi, recherche et partage sur Vivre FM, Blandine Lacour.
De retour dans Recherche et Partage, en compagnie de Jean-Luc Simon, président du GFPH, Groupement Français des Personnes Handicapées, de Pierre Dufourche, qui est sociologue, entre autres, et de Christophe Leroux, qui nous accompagne et qu'on retrouvera un peu plus longuement dans un instant, qui est spécialiste de la robotique. Tout ça pour parler de la pérémulation qu'on a commencé à dépiauter, décortiquer un peu avec nos invités. À l'instant, Pierre nous disait qu'il écoutait ses pérémulateurs, mais justement, aujourd'hui, c'est une notion assez nouvelle, même si effectivement, notamment dans le travail social, il y a quand même les pères qui commencent à être un petit peu reconnus. En tout cas, on en trouve certains. Mais c'est vrai que dans le handicap, j'imagine que ça débute aussi. Comment vous faites justement pour les trouver ? Qui sont ces pères émulateurs ? Est-ce que ça reste un petit groupe de personnes et vous essayez, pour le coup, de faire de l'émulation là-dessus ? Ou il y a vraiment déjà aujourd'hui, quel que soit le lieu en France, des gens qui se revendiquent et en tout cas qui agissent en pères émulateurs ?
La pérémulation se pratique beaucoup de manière informelle, en fait. Alors, on dit de manière informelle, mais bon, il y a toujours une forme. En tout cas, elle se pratique toujours hors... Enfin, elle se pratique très très souvent hors cadre associatif et sans même que les gens sachent qu'ils sont en train de faire de la pérémulation sur le coup. Et puis c'est après qu'ils sont quelques années plus tard, quand ils se trouvent confrontés à ce nom de pérémulation, ils se disent « Ah ben c'est ça que je faisais ». Alors concrètement, comment on a fait pour rencontrer les gens? La pérémulation, on en parle quand même depuis plusieurs années. Jean-Luc a rappelé la date peut-être tout à l'heure, je me souviens plus.
En 1994, notre première formulation du terme.
D'accord, une vingtaine d'années, donc déjà.
Il y a un groupe de gens, voilà, qui ont fréquenté le GFPH ou d'autres associations et qui constituent un petit peu le noyau, quoi. Donc concrètement, les gens que j'ai interrogés, ce sont des gens qui sont rattachés au réseau du GFPH.
Alors l'idée, c'est de faire le lien aussi avec ce qui se passe à l'étranger, de regarder l'expérience ailleurs, de voir comment on peut l'importer ou prendre ce qu'il y a de bien à l'étranger, sachant qu'effectivement tout dépend de l'environnement, donc culturel, sociétal et autres. Qu'est-ce qu'à ce niveau-là, on peut déjà avancer, apporter? Est-ce qu'il y a déjà des retours sur ce qui se fait à l'étranger, qui se fait peut-être pas en France, pour quelles raisons?
Ce qui se fait à l'étranger, oui, on l'a rencontré. Moi, je l'ai rencontré en 92 à San Francisco, où j'avais l'occasion de me rendre après un congrès. Et là, je dois dire que j'ai pris une claque, si on peut parler de ça, hein, parce que j'ai simplement vu que ce que j'avais imaginé tout seul dans mon petit coin était mis en œuvre à l'autre bout du monde, exactement de la façon dont je l'avais imaginé. Et donc, je me suis dit, mais finalement, c'est peut-être pas si fou que ça, mes idées. Si ça se met en place là, ça doit pouvoir se mettre en place ailleurs. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à ces pratiques-là. Et puis à découvrir que ça se pratiquait, mais aussi dans d'autres endroits, en Europe du Nord, au Canada. Et j'ai découvert d'autres pratiques. Et à partir de là, on a commencé à regarder en France comment ce que nous avions connu dans les hôpitaux, dans les clubs de foot, les clubs handisport où ça se pratique beaucoup. On se rencontre, ah ben tiens, quelle sonde tu utilises, ah ben tiens, tu fais comme ça. Puis moi, j'avais quelqu'un qui avait une expérience de 5 années du fauteuil roulant, qui, lorsque je suis arrivé à l'hôpital, m'a accompagné très rapidement. Il m'a fait gagner du temps.
Donc aujourd'hui, ça se pratique de façon informelle déjà depuis longtemps.
L'informel, on n'a pas inventé la pérémulation. On a simplement mis un mot et on essaie d'organiser une pratique qui est déjà préexistante. Simplement, l'objectif, c'est de le multiplier pour le proposer à un plus grand nombre de personnes et d'essayer de l'organiser au mieux possible. C'est-à-dire de multiplier les occasions et de multiplier les façons d'accéder à ce savoir de l'expérience. C'est ça le cœur de la pérémulation.
Oui, et puis c'est d'apporter cette réponse justement sociétale, un problème qui est là. Mais alors, justement, bénévole, rémunéré, un cadre, vous dites tout à l'heure, ça peut avoir ses avantages, ça peut peut-être aussi avoir des inconvénients. En deux mots, aujourd'hui, vous penchez plutôt vers quoi? Est-ce qu'il y a des pays, justement, à l'étranger, où le métier de pérémulateur est reconnu et donc...
La recherche va nous en apporter des éléments. J'étais en Allemagne hier et là-bas. C'est un pays, le seul pays européen que je connaisse, en tout cas. Il y a peut-être d'autres endroits où c'est organisé. Mais où la pérémulation fait partie d'une fonction sociale bien établie, avec des financements, avec des interventions, avec des centres pour la vie autonome qui accueillent des personnes en situation de handicap pour leur formuler quelques conseils à droite à gauche, pour être plus autonome, c'est-à-dire pour répondre à leurs questions. Ils sont face à des restrictions, ils veulent en sortir, ils vont voir une personne qui en a l'expérience, qui lui donne 2-3 trucs, et puis si jamais il a besoin, il intervient avec un professionnel. On n'est pas contre les professionnels, on facilite au contraire les échanges avec les professionnels, on va aussi former les professionnels pour qu'ils interviennent de façon peut-être plus ajustée auprès des personnes en situation de handicap. On essaye d'apporter un petit peu de graisse dans tout ça, finalement, hein. Mais en apportant une part qui manque, moi qui m'a frappé, je suis infirmier à l'origine. Avant d'être en fauteuil roulant, je m'occupais des personnes qui étaient dites handicapées, plutôt psychiatriques, même si j'avais eu l'occasion de travailler dans des IME ou IMPRO. Donc moi, ce qui m'a frappé la première chose, c'est de me dire, mais j'ai perdu mon emploi tout de suite, après ma déficience, et de me dire, mais c'est quoi mon rôle maintenant? Est-ce que j'ai pas un rôle dans cet hôpital? Est-ce que je pourrais pas avoir un rôle qui pourrait être comparable à celui que m'apporte ce gars-là que j'ai rencontré, qui m'a appris beaucoup de choses? Est-ce qu'il y aurait pas quelque chose? Donc, quelque part, l'idée de la pérémulation, elle est née de cette expérience-là. C'est pas de mon expérience, mais elle est née à travers tous ceux qui ont vécu cette expérience-là. Et simplement, de mettre des mots et de mettre du sens sur cette dynamique, eh bien, permet à plein de gens de s'y retrouver, de le rejoindre, et on est en train d'organiser les choses.
Mais est-ce que ça va pas être dur, justement, de structurer, de qualifier tout ça, alors que, et je rebondis sur la question de Christophe tout à l'heure, on peut parler de pérémulation, on va dire, dans tout type de handicap. Donc comment on va faire pour un moment dire bah voilà, quelles seront un petit peu les règles? C'est ça qui est compliqué aussi, et c'est compliqué d'ailleurs généralement dans des sujets concernant le handicap, c'est qu'il y a autant de personnes handicapées et de handicap, voilà, c'est...
La difficulté, c'est que nous sommes pères émulateurs, mais aussi il y a des perturbateurs. c'est-à-dire que je vous ai parlé du mouvement de libération tout à l'heure, de la libération qu'on proposait, c'est-à-dire que nous sommes là pour encourager la personne à se libérer des contraintes auxquelles elle est soumise. Et ça veut dire aussi les diktats qui lui sont imposés par un certain nombre de personnes, que ce soit des corps médicaux. C'est aussi la possibilité de remettre en cause et de discuter le diktat médical ou le diktat ou l'injonction médicale plutôt que diktat. Les injonctions de quelque ordre que ce soit. C'est-à-dire de pouvoir dire non, moi je pense que c'est autrement et de le discuter. Et ensuite d'arriver. Quelque part, c'est aussi un exercice de démocratie, hein. C'est la possibilité à tous de pouvoir discuter, choisir, décider.
Et puis c'est aussi un exercice pour remettre peut-être les choses à leur place. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup d'obstacles dans la vie des personnes handicapées qui relèvent plus d'un aspect justement normatif ou ouais. Physiologique ou autre, mais qui ne sont pas d'ordre, enfin qui peuvent être résolus par justement cette pérémulation.
Apprendre à se débarrasser des obstacles. Moi, je me souviens d'une rencontre avec un personnage qui est décédé maintenant, mais qui s'appelait Ed Roberts, qu'on qualifiait de pape de la vie autonome, d'Américain, qui était à l'origine du mouvement. Et je me souviens encore du jour où j'ai pris le train avec lui. Depuis ce jour-là, je ne prends plus jamais le train de la même façon. Ça m'a libéré, parce que j'étais toujours inquiet de prendre le train. Aujourd'hui, je prends le train comme ça, parce que je suis...
Concrètement,
je sais ce que je veux. Concrètement, il a donné des directives, il a imposé. Concrètement, on vous dit... vous arrivez dans le train, on vous dit, bon, écoutez, mettez-vous là, arrivez 2 heures à l'avance, mettez-vous là. Je parle déjà il y a quelques années en arrière. Aujourd'hui, c'est une demi-heure, c'est plus qu'une demi-heure. Mais si j'arrive 5 minutes en retard et qu'on me refuse de m'accompagner parce que je suis 5 minutes en retard, moi, je refuse qu'on me refuse. Je vais quand même prendre le train. Je vais trouver d'autres moyens, d'autres ressources. Je vais solliciter des passagers, J'ai pris le train, je suis allé en Allemagne comme ça. Le service accueil m'avait dit, pas de problème, vous serez pris en charge. J'ai respecté tous les délais horaires. Je suis arrivé à 6h du matin pour prendre le train. 6h du matin, il y avait personne pour m'aider. Heureusement, j'ai l'habitude, j'ai trouvé la ressource auprès des chauffeurs de train qui m'ont aidé. J'ai négocié une aide et j'ai eu facilement la réponse. J'aurais pas eu l'habitude, j'aurais écouté ce qu'on m'avait dit au départ. Le premier professionnel que j'ai vu de la SNCF m'a dit « Ah non, maintenant c'est trop tard, vous êtes obligé de prendre le train suivant. » Eh ben non, j'ai pris le train que je devais prendre.
Et tant mieux. Alors la pérémulation, on le voit, c'est ça. C'est aussi que la personne nous accompagne à trouver vous-même les propres ressources, à trouver vous-même les propres solutions aux obstacles en fait, qui sont sur votre chemin. Concrètement, Pierre, je reviens avec vous là-dessus, mais qu'est-ce qu'on peut en attendre et quand ? C'est-à-dire quand on va avoir des résultats concrets à présenter, à proposer à d'autres personnes que ça pourrait intéresser. On en est où, la recherche ?
Mais la recherche, pour l'instant, elle peut dire en quoi consistent les pratiques de pérémulation actuellement. Après, le deuxième volet de la recherche, c'est si on formalise un petit peu tout ça, on formalise dans quel sens ? Et c'est là où, bon, ben, en tant que chercheur, je ne peux pas imposer ma vision de la pérémulation. C'est-à-dire, la vie, comment dire ça ? La recherche peut trouver des choses. Le chercheur peut penser des choses qui seraient peut-être souhaitables, mais la pérémulation appartient d'abord aux personnes qui la pratiquent. C'est-à-dire que les orientations que je peux proposer ne sont pas forcément celles qui seront...
Mais là, quand même, l'idée, c'est de proposer un cadre, un statut, des idées fortes, peut-être des grandes lignes, de dire, voilà, quel que soit le pérémulateur, nous, ce qu'on vous propose, c'est de mettre en place tel type de formation, de reconnaissance, j'allais dire très, très concrète dans la loi, d'avoir un cadre, un statut. Non, c'est pas...
Concrètement, il s'agit le but, c'est de produire un référentiel de qualification et de certification. Donc, c'est une fiche métier, quelque part. Non, c'est très voisin. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on en fera après ? Je ne sais pas.
D'accord, mais quand est-ce qu'on pourra avoir une idée de ça ?
Ah, mais la recherche prend fin mai.
D'accord, fin mai. Et d'ici là, vous avez besoin de personnes qui viennent témoigner de ce qu'elles font, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont des pères émulateurs ou qui en sont sans le savoir, peut-être ?
Ah bah éventuellement, oui, tout à fait.
Oui, on est dans une phase où on a quand même à peu près bouclé la récupération du matériel. Maintenant, on est dans la phase d'écriture et d'élaboration. Hein. C'est maintenant que le travail du chercheur va être intense. Hein.
On a eu une collaboration jusqu'à présent pour récupérer du matériel, ce qui est maintenant le cas. On peut peut-être encore en ajouter un petit peu, mais je pense que là, on est un peu short quand même.
Jean-Luc veille à ce que je passe des nuits avec du vrai sommeil. Mais pour l'avenir, toute parole est bonne à entendre, en fait. Même si, dans un premier temps, ce que les personnes diront... servira pas réellement pour le matériau de la recherche. Toute parole est bonne à entendre pour après approfondir, formuler d'autres projets, etc.
Jean-Luc.
Et la conférence de restitution sera le 5 mai.
Voilà, au moins ça c'est précis.
Ça c'est concret.
Rendez-vous le 5 mai. On va faire le lien tout de suite parce qu'on va retrouver Christophe pour nous parler robotique. Et d'ailleurs, c'est assez marrant d'enchaîner les deux sujets. La pérémulation, on le voit, il y a des réponses quasiment individuelles en fonction du handicap et du pérémulateur et de la personne aidée. Alors que sur la robotique, on va peut-être plutôt parler de solutions qui s'adaptent au plus grand nombre et à tous. Je ne sais pas, vous nous direz ça dans un instant, Christophe. En tout cas, on se retrouve tout de suite après un peu de musique sur Vivre FM.
Recherche et partage, jusqu'à midi sur Vivre FM, Blandine Lacour.
Vous êtes toujours dans Recherche et partage et on y parle de projets financés par la FIRA, mais l'idée c'est aussi de vous donner envie de proposer des pistes pour peut-être, à votre tour, auditeurs, proposer des projets. Et là tout de suite nous avons Christophe Leroux qui est avec nous en plateau depuis le début de cette émission mais qui s'est fait plus discret. Christophe est spécialiste de la robotique au CEA de Saclay, précisément de la robotique au service des personnes ayant une déficience motrice. Nous accompagne toujours, bien évidemment, Jean-Luc Simon, formateur en sciences sociales et président du Groupement français des personnes handicapées, et Pierre Dufour, sociologue. Messieurs, sentez-vous libres d'intervenir. Alors, on va dire un mot de robotique, donc avec vous, Christophe. La robotique, alors on le sait, bon, ce sont des techniques qui servent à concevoir, à réaliser des machines, mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a oublié et quel rapport au handicap, quel apport même au handicap dans la robotique ?
Oui, alors donc la robotique, c'est avant toute chose des outils qui vont être au service des personnes. Donc, contrairement à l'image que l'on peut avoir au travers des films grand public, hein, tel Terminator, ce genre de choses, la robotique, ce sont vraiment des outils que l'on va essayer de développer pour une assistance à la prise de nourriture, à la mobilité, à la manipulation. À l'assistance aussi aux aidants pour leur permettre de porter les personnes du lit vers le fauteuil ou des choses comme ça. Donc, pour réduire les troubles musculo-squelettiques et ce genre de choses. Donc, c'est vraiment des outils qui vont être utiles à quelque chose.
Et c'est d'abord la recherche part des personnes handicapées, comme souvent, ou c'est plus l'inverse ? C'est souvent, on a tendance à dire, moi en tout cas je le pense, que parce qu'il y a des problématiques spécifiques, notamment pour les personnes handicapées, ça fait avancer la recherche d'ailleurs pour tout le monde, et puis les applications vont bien au-delà du coup des simples personnes handicapées.
Bien sûr, on a de nombreux exemples pour lesquels la typologie des personnes handicapées a été le vecteur de progrès pour les personnes valides. Hein. Donc, avec l'exemple de la télécommande pour les contrôler une télé, qui au début permettait à une personne d'allumer, changer les chaînes à distance, et qui maintenant, enfin, personne ne peut se passer d'une télécommande. De la même manière, je crois que les moteurs électriques des scooters actuellement ont été développés au premier lieu pour les fauteuils électriques. Donc il y a plein de recherches, énormément de recherches qui peut être stimulée par ce contact, par les problèmes que peuvent faire remonter les personnes handicapées. Pour les simplifications des interfaces machines, pour la simplification de la vie de tous les jours, ça peut être l'utilisation d'aspirateurs autonomes, de choses qui vont libérer de tâches un peu fastidieuses.
Et qu'est-ce qui fait obstacle aujourd'hui à peut-être plus de développement de la robotique ? C'est purement l'aspect financier ou il y a vraiment des enjeux autres, sociétaux, ou qui font que ça bloque ou alors des enjeux techniques qui font qu'on ne peut pas aller beaucoup plus loin dans certains domaines ?
Oui, bon, il y a les enjeux financiers, les coûts des machines actuellement qui en limitent encore leur diffusion. Et puis, il faut aussi voir que pour mettre des machines près de l'homme, ça demande un niveau d'exigence sur la sûreté, sur la robustesse, la capacité à refaire le même geste, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les conditions d'éclairage, quel que soit l'endroit où on on se trouve, qui demande un niveau technologique qui est extrêmement, extrêmement ambitieux, extrêmement élevé. Donc, il y a aussi encore beaucoup de progrès à faire dans la recherche.
Jean-Luc, Pierre, vous qui êtes aussi peut-être ou pas directement concerné, justement, la robotique, ça vous pose question ? C'est-à-dire, c'est un sujet qui vous intéresse ? Vous avez des questions à poser à Christophe sur justement qu'est-ce qui manque, des besoins auxquels la recherche ne répond pas aujourd'hui ?
On aura fait un énorme pas quand on aura considéré que agir avec la machine, ben, c'est une manière d'être normal comme parmi d'autres, quoi. Et je crois que au niveau des mentalités, il y a un truc énorme à franchir. Mais quand on l'aura franchi, ce sera une grande victoire, quoi.
Mais l'assistance, l'assistance humaine apportée par la machine, nous sommes des millions à l'utiliser tous les jours avec nos iPhones et nos téléphones portables. C'est une assistance technique dont plus beaucoup d'entre nous ne pourraient se passer maintenant. Hein. Et ça a été pour nous, en situation de handicap, un outil de liberté formidable, formidable. Autant pour nous restreints au niveau du moteur que pour des personnes aveugles qui arrivent à se diriger, à lire des textes et à des sourds à discuter avec une webcam. Ça a été une révolution, mais vraiment fondamentale. Pour nous, c'est vraiment une liberté extraordinaire.
Et alors, suite à cette révolution, justement, aujourd'hui, où est-ce qu'on va ? Quelle est la prochaine étape ? On l'a vu, ça a servi peut-être dans un premier temps plus à réparer des capacités déficientes. Aujourd'hui, on va plus loin, ça sert à augmenter les capacités, augmenter les potentiels humains. On va vers là aujourd'hui et ça pose question en termes éthiques ?
Alors, l'augmentation des potentiels humains, oui, ça en fait partie pour certaines personnes. L'assistance, en général, aussi, pour pallier des déficiences, pour faciliter la vie quotidienne, l'aide à la prise de nourriture de manière autonome, ce sont des choses qu'on commence à voir, bien que les aides techniques restent encore assez chères pour ce type d'application, à mon avis. Il y a un potentiel très très large dans l'assistance, mais encore beaucoup de chemin pour arriver à des solutions qui soient vraiment opérationnelles et qui satisfassent, enfin qui ne soient pas des déceptions en tout cas pour les personnes. C'est ça qui est extrêmement important.
Jean-Luc.
Nous, ce que nous défendons, c'est d'avoir notre mot à dire sur cette question-là. On va dire que nous sommes un petit peu embêtants, on voudrait avoir notre mot à dire sur tout. Ça, c'est un peu vrai aussi. Mais parce que toute la vie nous concerne, finalement. Et sur cette question de robotique, moi, j'ai toujours été interpellé. On a d'ailleurs fait plusieurs débats là-dessus. J'ai toujours été interpellé par la volonté de nous faire marcher, nous, les paraplégiques. Il y a une recherche importante et des fonds importants qui se dirigent vers la machine à marcher, une espèce de vieux rêve, si on arrive à remettre debout le paraplégique. Ça serait formidable. Mais pour nous, ça ne nous parle pas. En tout cas, pour moi, ça ne me parle pas. Parce que après 30 ans de paraplégie, ce qui m'importe, moi, c'est pas tellement de me remettre debout, même si je me remets debout en ce moment avec un autre appareillage, mais c'est pas tellement de marcher, mais c'est d'abord de pouvoir pisser normalement. C'est d'abord de pouvoir résoudre d'autres problèmes qui sont moins visibles et qui sont peut-être moins parlants pour d'autres, mais qui sont plus essentiels pour moi. Donc, tu vois, marcher, pour moi, est une espèce de présupposé, de choses imaginées qui ne correspondent pas à une réalité. Ce n'est pas ma priorité. Pas ma priorité à moi. Pour celui qui vient de perdre ses jambes, certainement, c'est une priorité. Mais au bout de 30 ans de paraplégie, ça ne l'est plus.
C'est le handicap, il est ailleurs. Il n'est plus dans le fait de ne plus pouvoir servir des jambes, mais de ne pas pouvoir, malgré le fauteuil, vivre comme tout le monde. Et...
Je préférerais, comme je vous l'ai dit, mieux pisser, je préférerais mieux digérer, je préférerais mieux, moins me déformer. Il y a d'autres priorités.
Ouais, alors bon, mieux digérer, je ne sais pas si Christophe pourra vous aider, et encore que. Mais qu'est-ce que vous répondez à Jean-Luc, justement, quand
je suis tout à fait d'accord. C'est, en tout cas, s'il y a eu par le passé une tendance à développer des aides techniques, en y incluant la robotique, des aides techniques qui soient parties d'idées technologiques pour essayer ensuite de les appliquer à des besoins ou des soi-disant besoins. Maintenant, je trouve que c'est plus tellement le cas dans la recherche et dans la recherche européenne en général, hein, où là, il y a beaucoup, beaucoup... Les chercheurs sont toujours très contraints et très soucieux d'avoir des systèmes, d'aboutir aboutir à des systèmes qui correspondent véritablement à des besoins. En fait, je pense que beaucoup de chercheurs en robotique aiment, de toute façon, ont pour objectif de voir leurs machines marcher et être utilisées. C'est pas pour et pas de faire des machines qui vont rester sur une étagère. Donc, en particulier pour nous au CEA, dans les activités qu'on a en robotique d'assistance hein, qui datent des années 80-70 même, hein, on est un, parmi les plus anciens laboratoires à travailler sur le sujet, eh bien, on travaille beaucoup en collaboration avec les associations, en particulier l'association Approche qui regroupe les centres de rééducation, les principaux centres de rééducation en France, hein, de Berck, Kerpap, Garches, Coubert, enfin, je ne vais pas les citer tous, qui vont nous aider à identifier les besoins des personnes ou des aidants et ensuite à pas nous tromper, hein, essayer, comme vous le disiez, à pas développer des machines qui ne correspondent plus à un besoin. Et l'autre intérêt de ce contact avec cette association Approche, c'est que on peut aussi, ils nous conduisent à faire des évaluations critiques, cliniques. Et très critique de l'utilité, de l'utilisabilité et de l'acceptabilité de ces machines avec des personnes handicapées en situation de vie. On n'est pas encore à faire des essais dans des appartements, mais voilà.
On le voit, une robotique qui est donc très concrète dans la vie des personnes qui en ont besoin, qui n'est pas comme l'image qu'on en a effectivement au cinéma avec uniquement des humanoïdes ou des exosquelettes ou des choses un peu plus...
Absolument. Alors, il peut y avoir des humanoïdes, ça c'est plus pour les gens qui travaillent sur ce type de robot vont s'intéresser plutôt au handicap cognitif pour la stimulation. Pour notre part, au CEA en tout cas, on est plus sur l'assistance aux personnes qui ont des dépendances physiques. Voilà.
Eh bien, il va falloir qu'on se quitte dans un instant. Un dernier mot, messieurs, peut-être, Pierre et Jean-Luc, sur ce que vous attendez. Ça vous a convaincu, cet aspect positif de la robotique? Ce qui va servir à vous, servira à nous, à tout le monde, aux personnes ordinaires. Et puis, vous le disiez, ils sont vraiment dans le concret, les chercheurs, aujourd'hui, en tout cas.
En sachant qu'il y a une part du hasard, moi, auquel je fais beaucoup confiance, c'est-à-dire qu'on va, je pense que ce que peuvent apporter beaucoup de personnes en situation de handicap, c'est sur le détournement des technologies. C'est-à-dire qu'elles vont avoir des idées de détourner certaines technologies existantes et vont apparaître des utilisations que nous n'avions pas envisagées. Je pense que ça, c'est la richesse de la participation, une des richesses de la participation des personnes.
Et c'est ce qui se passe d'ailleurs généralement dans toutes les recherches, je pense même pas juste avec la robotique, c'est peut-être aussi ce qui se passera dans votre projet de recherche sur la pérémulation, de découvrir par hasard des choses qui feront avancer la vie de ces personnes et qui apporteront une réponse concrète à des problématiques sociétales et en tout cas des problématiques de la vie de tous les jours des personnes handicapées. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous pourrez retrouver, chers auditeurs, l'émission en podcast bientôt sur le site de Vivre FM, www.vivrefm.com. Et puis pour plus de renseignements sur les projets soutenus par la FIRA, n'hésitez pas à vous rendre sur le site fira.org et peut-être à proposer vous aussi des projets. Il y a un appel à projets qui est à nouveau en cours pour début 2015, donc n'hésitez pas. Et la pérémulation, une notion dont on va entendre de plus en plus parler, et on l'espère qu'on en reparlera avec vous bientôt sur Vivre FM. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci. Merci, au revoir.